Bien.
Alors, le sujet, c'est introduction au Seder de Pessah. Et pour ce faire, on va regarder les versets et ensuite le commentaire de Maïmonide. Alors, prenons ces dents, Shemot, l'Exode, chapitre 12. Petite parenthèse. Non, c'est un peu plus que 12, excusez-moi. Chapitre Yud Gimel, 13. Le passage que nous allons lire et traduire est un des quatre paragraphes qui se trouvent dans les Téphilines. Parce que souvent, on se demande qu'est-ce qu'il y a dans les Téphilines. Les phylactères, les petites boîtes noires là. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du hashish, il y a des diamants en contrebande. Qu'est-ce qu'il y a dans les Téphilines? Comment? Il y a quatre... Comment? Quatre paragraphes de la Torah. Et, mais quels sont ces quatre paragraphes? Ça aussi, c'est pas si connu que ça. Voilà. Hein. Donc, en tout cas, il y a le paragraphe que nous allons lire et traduire, et un des quatre paragraphes qui se trouve dans les Téphilines. Donc, c'est chapitre Yud Gimel dans Shemot, chapitre 13. Voilà. Vaidaber Hachem, donc j'attends, je sais pas, j'ai tout mon temps. Voilà. Donc c'est dans l'Exode, chapitre 13, verset 1. Vaidaber Hachem el Moshe les morts. Dieu parla à Moshe pour qu'il rapporte. Kadesh li kol bechor, peter kol rechem, bivne Israël, ba Adam ou ba Behema li ou. Sanctifie pour moi tout premier-né, peter kol rechem, qui ouvre toute matrice parmi les enfants d'Israël, dans l'homme et dans l'animal. Il est à moi. C'est quoi Kadesh Likol Bechor? Sanctifie pour moi tout premier-né. Messieurs, dames, qu'est-ce que c'est? À quel sujet? Comment? Oui, c'est-à-dire que dans les premiers-nés, c'est-à-dire que si une femme a son premier garçon, ce garçon est sanctifié pour Dieu. Sanctifié pour Dieu. Et alors, comment ça se concrétise? Par le commandement de rachat des premiers-nés. Mais en vérité, fondamentalement, le premier-né est sanctifié pour Dieu. Ensuite, il y a autre chose, on le rachète. Mais ce n'est pas seulement, comme dit le verset, dans les enfants d'Israël. Si, par exemple, vous avez un troupeau, oui, vous avez des troupeaux, des vaches, des moutons, oui. Alors, si votre vache a son premier veau, ce premier veau est sanctifié et on doit l'amener au temple de Jérusalem. Allez, vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Alors, comment on fait? Comment on fait? C'est un problème. C'est un gros problème. Si tant est... Bon, nous, aujourd'hui, nous sommes citadins. Mais je ne sais pas, nos grands-parents ou arrière-grands-parents étaient peut-être à la campagne, non? Il n'y avait pas, hein? Il n'y avait pas des pectos dans vos familles? Non. Comment? En Pologne, personnellement, une partie de mes arrière-grands-parents étaient à la campagne, avaient des troupeaux. Et en Alsace, chez les juifs alsaciens, c'est le métier fondamental des juifs alsaciens, c'est Bemessender, c'est marchand de bestiaux. Entre autres, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, on s'en fout. Mais... en tout cas, ça peut arriver qu'on ait des animaux. Et alors, on a une vache qui va mettre au monde son premier veau. Si on ne prend pas de précaution, ce veau, on n'a pas le droit d'utiliser ce veau. Il est sanctifié, il faut l'amener en sacrifice au temple de Jérusalem. Alors actuellement, peut-être que Clément, tu vas nous aider à trouver une solution. Il faut peut-être déloger les gens qui sont là-bas.
Au temple ?
Oui.
Oui.
Hein, peut-être, on va peut-être trouver une solution, tu vas nous aider. En tout cas, quoi qu'il en soit, alors c'est un gros problème. Comment fait-on pour, disons, quelqu'un qui a des troupeaux, il doit s'associer avec un non-juif avant que la vache ou que la brebis mette bas, pour que cette vache ou cette brebis, par exemple, une partie de cet animal appartienne à un non-juif, donc cet animal n'appartient pas complètement à un juif. L'enfant, après, quand il naîtra, n'a pas de sainteté. Mais si on ne prend pas cette précaution, on ne pourra pas utiliser du tout toute la vie ce veau ou cet agneau. C'est quelque chose de pratique. Et on l'apprend du verset. Hein.
Mais du coup, on peut le faire à chaque fois et il n'y aura jamais aucun agneau sans sainteté.
Oui, c'est la première Mishnah du traité Bechorot qui parle de ça.
Mais avec les êtres humains, c'est autre chose.
Alors, avec les êtres humains, le bébé est sanctifié. Alors, il faut le racheter. Hein, c'est le rachat des premiers-nés. Il faut le racheter, le rachat des premiers-nés. Mais, ça n'a pas du tout les mêmes incidences. C'est une mitzvah de racheter. Mais en tout cas, ça vient de regarder ce verset et interpelle. Dieu dit à Moïse en disant, « Kadeshli kol bechor, sanctifie pour moi tout premier-né, Peter kol rechem, qui ouvre toute matrice, parmi les enfants d'Israël, dans l'homme ou dans l'animal, il m'appartient. » Ça, c'est le premier verset. Entre parenthèses, c'est lié à la maman. C'est l'enfant qui ouvre la matrice. Si, par exemple, un monsieur, il a eu une femme, je ne sais pas moi, et ensuite il a un garçon avec cette femme. Ensuite, je ne sais pas, pour faire simple, ouais, la polygamie est possible, il a une deuxième femme. Oui, il a une deuxième. Je ne rentre pas, est-ce que la polygamie est possible, pas possible, aujourd'hui, pas aujourd'hui. Je m'en fous complètement. En tout cas, fondamentalement, disons la polygamie est possible, il a trois femmes. Oui, chacune a un premier-né garçon. Les premiers-nés ont la sainteté de Bechor. C'est pas lié au monsieur, c'est lié à la dame, à l'enfant qui ouvre la matrice.
C'est lié juste à la mère ou c'est lié au couple?
C'est lié à la mère.
C'est juste à la mère.
À la mère. Voilà. Si tant est, par exemple, une dame, elle a fait une fausse couche, l'enfant suivant n'a pas la sainteté de Bechor. Bon, alors il faut savoir quand est-ce qu'elle a fait la fausse couche. Si c'est une fausse couche après 40 jours de conception, alors après, l'enfant qui vient n'a pas la sainteté de Bechor, parce que déjà, un être, petit, même tout petit, a ouvert sa matrice. Voilà. Vayomer Moshe el Aham. Zachor et Ayom Azé, Asher Yotzatem Mitzrayim Mibet Avadim, Kibechozek Yad, Otsi Hashem et Rem Mise, Velo Yachel Chametz. Ah, c'est un pasouk extraordinaire, verset extraordinaire. Moïse dit au peuple, alors regardez, ce que j'aime faire dans nos études, c'est bien travailler le texte. C'est je sais que parfois c'est un peu laborieux, mais disons, personnellement, j'aime enseigner en travaillant le texte. Je reprends le verset précédent. Monsieur le caméraman, là, ça roule, hein ? Ça roule ?
Oui,
je croyais
que
c'était 20h30. Non, c'est 20h. Est-ce que c'est opérationnel ? Parce que là, je reprends le début. En tant qu'à faire.
C'est quoi la matrice ?
La matrice, c'est-à-dire, ça c'est un peu d'anatomie. Oui. Les madames, il y a un endroit où le bébé se forme, ça s'appelle l'utérus. Elle fait des maths, elle ne sait pas comment elle est fabriquée. Où allons-nous ? Où va la France ? Excusez-moi.
C'est
vrai,
quand
c'est comme ça. Bon, enfin, ça veut dire, non, je vais te dire, Jessica, malgré la légende, on n'est pas né dans les choux, ni, c'est pas les cigognes qui nous amènent dans un panier.
C'est quoi alors ?
Comment ? Non, on apprend des choses ici.
On va faire un cours d'anatomie, si tu
veux. Ok, d'accord, c'est ça. Et donc j'y suis. Sanctifie pour moi le premier-né, ça veut dire quoi concrètement ?
Concrètement, alors, c'est ce qu'on vient de dire. Okay. C'est ce que nous venons de dire. Que le Le premier-né dans Israël, a une sainteté. Alors, à la sortie d'Égypte, les premiers-nés devaient, il ne devait pas y avoir les Kohanim. Les Kohanim, c'est eux qui servent au temple. Mais dans le projet premier de la sortie d'Égypte, dans le projet premier, ce n'était pas les Kohen qui servaient au temple, ça devait être les premiers-nés. À la suite de la faute du veau d'or, les Kohanim, les premiers-nés, on les rachète pour une somme que la Torah fixe, et cette somme, on la donne aux Kohen. Voilà. Mais fondamentalement, le premier-né doit servir au temple. C'est lui qui sert au temple.
Et si il a envie de servir au temple ?
Comment ?
Si il avait envie de servir au temple, est-ce qu'on rachète quand
même ? Non, aujourd'hui, de nos jours.
Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de temple, mais à l'époque.
Non, maintenant c'est les Kohen. Okay. C'est les Kohen. Bon, tout ça c'est très complexe. Je reprends. Oui, vous avez tous un texte. Messieurs, dames, là, prenez un texte. Il y a pas mal de chumashs. Pardon. Derrière, il y a des chumashs, là. C'est bon ? Vous savez ? Ok, c'est bon, c'est parfait. Alors on y va. C'est bon, monsieur ? Ça roule ? On y va ? Allez. Donc regardez, notre sujet ce soir, c'est, j'appelle ça, introduction au Seder de Pessah. Mais pour voir ce sujet, il faut voir les versets d'où on apprend ça. Bien. Alors, Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo, l'Éternel dit à Moshe en disant, Kadeshli kol bechor peter kol rechem bivne Israël badab ou babe ma iliou. Sanctifie pour moi tout premier-né, peter kol rechem, qui ouvre toute matrice. Oui, bon, la matrice, c'est l'utérus, là où l'enfant se forme. Donc c'est le premier enfant qui ouvre l'utérus pour sortir dans les enfants d'Israël, ba adam ou babe ma, pas seulement dans les hommes, mais aussi dans les animaux, lit où il est à moi. c'est Kedusha de Bechor, la Kedusha du Bechor. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pour signifier que le moment décisif de la sortie d'Égypte, c'est la dixième plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés, les enfants d'Israël, pendant 210 ans, ils ont vécu en Égypte, ils étaient absolument intégrés dans la société, dans le monde égyptien, ils vivaient comme des Égyptiens, bien que, en vérité, ils étaient asservis, mais ils vivaient comme des Égyptiens. Ok, bien. Il y a eu les différentes plaies, et à la fin, Dieu dit, ça c'est le début du chapitre Yud-Bet, du chapitre 12 de Shemot, où Akadosh Baruch Hu dit, vous allez faire deux choses. Les hommes vont faire la circoncision et vous ferez le sacrifice du Pessah. C'est quoi le sacrifice du Pessah ? C'était quelque chose d'énorme, le sacrifice du Pessah. Parce que en Égypte, c'était une société polythéiste, ils avaient plein d'idoles, mais l'idole principale, le dieu principal, c'était l'agneau. C'était l'agneau. C'était le bélier. Et d'ailleurs, d'un point de vue constellation, d'un point de vue signe zodiacal, commence avec ce mois de Nissan qui va commencer dans quelques jours, le mois dont la dominante, c'est le bélier. Eh bien, vous allez prendre le bélier et vous allez l'égorger. Ça, c'était quand même... il fallait du courage. Ouais, il fallait du courage. C'est comme si nous, en France, on nous dit, prenez un litre de bon Bordeaux et un camembert, ouais, mettez le bon camembert à la poubelle et le litre de rouge, versez-le par terre. On peut pas. Ou alors, non, mieux, coupez le bon Bordeaux avec de l'eau. C'est ça. Une bonne bouteille de Bordeaux et tu mets de la flotte dedans. Oui, parce que c'est un peu fort, tu vois. Ça, c'est le fudge, tu vois. Il a une bonne bouteille, il coupe avec de l'eau. Ça, c'est horrible. Tu fais ça en France, c'est une désacralisation absolue. Tu prends un camembert, ouais, tu mets du Nutella dessus. Enfin, ah, c'est horrible. Alors, c'était ça. Prendre l'agneau en Égypte et l'égorger, c'était la claque pour les Égyptiens. Et d'ailleurs, pas tous les enfants d'Israël ont supporté de le faire. Pas tous les enfants d'Israël ont supporté de faire ça. Et faire la circoncision, c'était un acte très fort. C'était un acte de se différencier par rapport à la société égyptienne. Parce que à la fin, les enfants d'Israël ne faisaient plus la circoncision. Bien que dans la famille d'Abraham, Isaac et Jacob, c'était dans la tradition de faire la circoncision. La plupart ne faisaient plus la circoncision. Ok ? Bien. Oui, Krana.
Non, vous direz qu'il y a certains ministères qui n'ont pas supporté de faire ce sacrifice de l'agneau. Est-ce que c'était parce qu'ils avaient eux-mêmes intégré... c'était pas d'idolâtrie, mais c'était quand même important pour eux, ou est-ce que c'était par peur des Égyptiens ?
Les deux. Alors, le Shabbat qui va venir... non, excusez-moi, c'est pas ce Shabbat. Le Shabbat juste avant Pessah s'appelle Shabbat Agadol. Shabbat juste avant Pessah s'appelle le grand Shabbat en souvenir de la hardiesse des enfants d'Israël qui ont pris l'agneau. Il y avait les deux. Il y avait le fait des représailles, on pourrait s'exprimer comme ça. Et puis aussi, eux-mêmes, ça allait contre toute l'éducation en tant que l'éducation de la société égyptienne. Ok. Ça, c'est le premier verset. Ensuite, regardons le verset 3. « Vayomer Moshe et la Ham » Zachor et Ayom Azé, Asher Yotzatem, Mitzrayim, Mibet Avadim, Kibechozek Yad, Otsi, Hashem et Remise, Lo Yachel Chametz. Moshe dit au peuple, souviens-toi de ce jour-ci où vous sortez d'Égypte, de la maison d'esclavage, car avec une main forte, Dieu vous a sorti d'ici, et on ne mangera pas deux pattes levées. C'est bizarre quand même. Lo yachel chametz. Ne mangez pas du chametz, de la pâte levée, juste avec... Souvenez-vous de ce jour-ci où vous êtes sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est bizarre quand même, non? Sentez-vous la bizarreté? Est-ce que vous le sentez quelque part?
Il
n'y
a pas une histoire de... que la farine, elle se conservait dans une sorte de pâte et que on prenait toujours un peu de la pâte d'avant pour la pâte d'après.
Oui.
Donc il voulait faire une rupture.
Très bien. Parfait. C'est ça. C'est parfait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'interdit de chametz, l'interdit de levain, c'est la rupture. Parce qu'effectivement, quand on fait du pain, on prend vous mangez des fois du pain? Alors, le pain, comment ils font les boulangers du pain? Comment? Comment?
Ils mettent du pain de la veille.
Ils prennent du levain, il y a des cubes de levain, hein, de levain de boulanger, de levure de boulanger, c'est de la pâte qui est très très fermentée, etc. Des fois on fait le levain même dans les très bonnes boulangeries, ils font du levain sur place eux-mêmes, ils n'achètent pas des cubes de levain, de levure, ils le font, c'est de la pâte qui a fermenté, refermenté, donc c'est vraiment, le pain est fait à partir de quelque chose d'ancien, de très ancien. Pour exprimer la rupture de la sortie d'Égypte, on voit, c'est très éloquent dans le verset, souvenez-vous de ce jour-ci où vous êtes sorti d'Égypte, ne mangez pas de pâte levée. Voilà. Donc la matzah exprime la rupture avec avec tout ce monde égyptien. Mais j'aimerais aussi mettre en relief une anomalie dans le verset, que cette injonction de ne pas manger du chametz est introduite par un verset qui dit « Moshe dit au peuple, souviens-toi de ce jour-ci ». On dirait que c'est Moshe qui l'a dit de lui-même. D'habitude, c'est écrit « Dieu dit à Moshe pour dire » ou bien « Moshe rapporte la parole de Dieu ». On dirait même que ce verset l'explication du verset précédent de Kadesh Likol Bechor, sanctifie tout premier-né. On dirait que c'est l'explication du verset d'avant. Verset suivant, 4. Ayom atem yotzim bechodesh aviv. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois du printemps. Ve'aya ki yaviacha Hashem el eretz haknani vachiti vaemori. Vachivi, vayevusi, asher nishba la votecha la tetlar, eretz zavatra la voudvash, vavadeta et avoda azot bachodesh azé. Ça sera lorsque l'Éternel t'amènera dans la terre du Cananéen, du Chitéen, du Hémoréen, du Chivi, yevusi, qu'il a promis à tes pères de leur donner, de te donner, une terre qui ruisselle de lait et de miel. Entre parenthèses, c'est quoi cette histoire d'une terre qui ruisselle de lait et de miel? C'est quoi? Ouais, c'est quoi là? Je sais pas, vous êtes déjà allé en Israël, vous avez vu ça ruisselle de lait et de miel? Comment?
À l'époque, il y avait des ruisseaux de lait et de miel partout.
Ah bon, t'es allé, c'était... C'était magique, quoi. Non, mais tu as raison. Hein. Excuse-moi. Tu as raison. La Gemara, le Talmud dit que les fruits étaient tellement juteux, parce que le miel dont on parle, c'est pas le miel d'abeille, mais ce sont les dattes très juteuses. C'est le jus de la datte. Le jus de la date.
D'ailleurs, en Israël, il y a du miel de date.
En fait. Il y a du miel, oui.
Il y a du miel de date dans les supermarchés en Israël.
Oui. Alors, les brebis étaient tellement lourdes de lait, qu'il y avait effectivement des petits ruisselets de lait. Mais néanmoins, pourquoi caractériser la terre de Canaan toujours par cela. Pour qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qu'il y a de pourquoi c'est caractérisé par ça. J'ai vu dans le Maharal, dans le Gvorot Hashem, le Maharal dit que le lait et le miel sont des éléments extrêmement différents et contrastés, et que on exprime la particularité de la terre d'Israël par ruisselant de lait et de miel. On pourrait dire c'est la terre des contrastes, où les choses sont extrêmement contrastées. C'est ça qui est exprimé par ruisselant de lait et de miel. Alors je ne sais pas exactement en quoi le lait et le miel sont des opposés, mais il y a des opposés très marqués en Israël.
Comment c'est naturel? Comment l'association lait et miel est très différente. On se demande ce qu'il y a à faire le lait là-dedans. Une terre de miel, on dit c'est génial. Terre de lait, bon, d'accord, la Normandie. Enfin, on se demande ce qu'il y a à faire. Quoi. Voilà la raison.
Le miel est quelque chose qui est très bon, très sucré, mais on ne peut pas en manger beaucoup aussi. Le miel, le lait, il y a quelque chose de vital dedans. Je ne sais pas exactement. Continuons. Donc, quand tu arriveras dans cette terre que Dieu te a promis à tes pères de te donner, va de ta tavoda zod machodesh azé, tu feras ce service ce mois-là. Donc, c'est introduit. Souviens-toi de ce jour où vous êtes sorti d'Égypte. Comment se souvenir de la sortie d'Égypte? Premièrement, tu ne manges pas de hametz. Deuxièmement, donc c'est très très important parce que là, on va commencer à préparer Pessah. Et on appelle la matzah l'echemoni, le pain pauvre. D'aucuns l'appellent le pain qui rend pauvre. Non, parce qu'il faut acheter, c'est cher. C'est le pain qui rend pauvre. Non, parce que, je veux dire, on va préparer Pessah. Beaucoup de gens mettent énormément d'énergie à préparer Pessah, à nettoyer la maison, à faire des courses, à préparer les repas. C'est un chambardement colossal. Mais à force, on oublie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une rupture, comme la rupture de la sortie d'Égypte. C'est ce que le verset nous dit. Que ce que nous allons faire, c'est pour nous souvenir de ce jour-ci. Premièrement, ne pas manger de hametz, et deuxièmement, faire le sacrifice du Pessah. Bon, actuellement, on ne fait pas le sacrifice du Pessah. Verset 6. Shiva tiamim tochal matzot ubayom hashevi chag l'Hashem. 7 jours, tu mangeras des matzot, en français des azim. Le 7e jour, c'est une fête pour Dieu. Matzot yeachel et shivat hayamim, velo yirae lecha chametz, velo yirae lecha seor bechol gevulecha. Des matzot seront mangés pendant les 7 jours. Comment ? C'est vrai. Des matzot seront mangés dans les 7 jours. Qu'on ne voit pas pour toi de hametz et qu'on ne voit pas pour toi de levain. Donc on ne voit pas pour toi de pain, ni qu'on ne voit pas pour toi de levain dans tout ton territoire. C'est-à-dire dans tout ce qui t'appartient, dans toutes tes propriétés. Il ne faut pas que l'on voit chez toi ni des miettes de pain, ni du levain. Bien que le levain en soi ne soit pas comestible, mais on doit vider nos maisons, nos voitures, nos poches de miettes multiples et diverses. Oui, et c'est vrai que c'est une rupture énorme qu'il n'y ait plus chez nous aucune trace de vieillerie qui s'appelle le hametz et le levain. Vigadeta le bincha, bayomahu les morts, Bavurze asa Hashem li betseti mimitzray. Et tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, c'est pour cela, c'est-à-dire pour que je puisse faire ce service de Pessah, que Hashem a fait ce qu'il m'a fait à la sortie d'Égypte. Alors, vigata le bincha, tu raconteras, le mot vigata, c'est du mot de agada. Agada, c'est-à-dire c'est raconter. Le soir de Pessah, le seder, quand on fait le seder, on accomplit la mitzvah de vigata le bincha. C'est pas simplement que c'est une coutume hébraïque de faire le seder de Pessah. Faire le seder de Pessah, c'est d'abord accomplir le commandement qui s'appelle vigata le bincha. Tu racontes à ton fils. Mais il y a une anomalie, c'est que quand est-ce qu'on fait le seder de Pessah au niveau du calendrier?
15 Nissan.
15 Nissan, quand?
Quand?
Quand? Quand le 15 Nissan? La nuit.
La nuit, oui.
La nuit du 15 Nissan. Or, le verset dit, Vikata le bincha bayom aou, ce jour-ci. Yom, c'est le jour. Et on le fait la nuit. Incroyable, cette chose. Remboursé. D'ailleurs, dans le texte de la Haggadah, on dit Yachol mi Beodium. Bayom Aou. Yachol mi Beodium. Oui, on dit dans le texte. Je ne sais pas s'il y en a qui voient un peu le texte de la Haggadah.
Ouais.
Hein? Si c'est écrit, tu raconteras dans ce jour-là, est-ce que c'est effectivement le jour? Non, c'est écrit Bavurze. Lo amarti ela bechaa sheyesh matzah umaror munachim lefanecha. Bavurze, c'était pour cela, pour que je puisse manger les matzot, les herbes amères, et lorsqu'il y a le temps, le corps du sacrifice de Pessah, que je dois raconter. Lorsque Bavurze, pour cela, ils font Zé. Oui. Quand il y a les matzot, les herbes amères, c'est à ce moment-là, Bavurze, c'est à ce moment-là que je dois raconter. Alors pourquoi c'est écrit le jour?
Excuse-moi, en quoi pour...
c'est bizarre.
Mais en plus, Bavurze, pour quelqu'un qui connaît mal, où est-il dit que Bavurze, c'est la nuit? Où est-il dit qu'on va manger les herbes
oui.
amères?
Oui, alors ça pas? C'est bon, oui. Alors ça, c'est écrit ailleurs.
Oui.
C'est écrit ailleurs, dans le chapitre 12, Yudbet, que on doit manger les herbes amères. Al-Matsot ou Merorim Yorlou, c'est la nuit du 15.
Voilà.
Al-Matsot ou Merorim Yorlou, le korban Pessah, on le doit manger avec des matzot et avec des herbes amères. Ça, c'est écrit juste au-dessus, d'accord? Bavurze, pour cela, c'est quoi ça? Matzot ou Maror et korban Pessah. Et ça, c'est la nuit. C'est écrit le jour. C'est bizarre. Alors maintenant, excusez-moi tout de suite, maintenant on va se poser la question, quelqu'un il n'a pas de fils, qu'est-ce qu'il fait? Pas de mitzvah. Comment? Non mais parce que vous êtes érudite. Mais quoi?
C'est marqué.
Non. Comprenons-nous bien. J'essaie de faire, puisqu'on parle d'agneau, d'être innocent comme l'agneau qui vient de naître. Aborder les versets comme si on n'a jamais rien entendu. Là, on te dit, tu racontes à ton fils. Là, vous allez me dire, ouais, il raconte à lui-même. Ok, c'est bon, on va voir ça dans Maïmonide. Mais a priori, quand on voit le verset, tu racontes à ton fils. Voilà. Donc quelqu'un, il n'a pas de fils, il dégage. A priori. Voilà. Les derniers versets... Comment?
Fils, là, c'est fils ou c'est, ça veut dire enfant?
Les enfants.
Très bien. Fils, c'est fils.
Oui, j'allais dire la fille.
Comment?
On
va voir, on va voir. On va voir. Des garçons. Le fils, quand on, le fils, c'est le fils. Voilà. Mais la question se pose. Quelqu'un, il n'a pas de fils, il a des filles, qu'est-ce qu'il fait?
Voilà.
Mystère et boule de gomme. Nous allons voir ça. Ok. Ce, voilà, maintenant que nous avons vu ça, on termine les deux derniers versets, parce que c'est très important. « Vayalecha le'ot aliatra ou le zikaron benenecha » Le man tie Torah Hashem bepicha ki beyad chazaka otziacha Hashem imitzraim. Ça sera pour toi un signe sur ton bras et un souvenir entre tes yeux pour que l'enseignement de Dieu soit dans ta bouche, que avec une main forte, Dieu t'a sorti d'Égypte. Donc les téphilines, pourquoi ce paragraphe, c'est un des quatre paragraphes qui sont écrits à l'intérieur des parchemins dans les téphilines. C'est pour nous souvenir que Dieu nous a sortis d'Égypte. Les téphilines, si vous voulez, c'est un peu un signe de l'attachement à Dieu qui exprime notre attachement à Dieu par, on pourrait dire, le triomphe qui nous a sortis d'Égypte. Cette sortie d'Égypte nous a fait accéder à un niveau que nous allons signifier pour nous souvenir par ces téphilines. Les téphilines expriment, on pourrait dire, c'est un signe de gloire. On met les téphilines, c'est un honneur, un signe de porter les téphilines. Veshamarta tachuka azot nemoada miyamim yomima. Tu respecteras ce décret en son temps, régulièrement, quand les temps reviennent. A priori, ça parle du service du Pessah qu'il faut, donc tous les ans, respecter. Ce service du Pessah. C'est une discussion dans le Talmud, dans plusieurs endroits. Certains disent que Veshamarta et Tachukazot parlent des téphilines, et on pourrait comprendre, tu mettras les téphilines de temps en temps. Tu respecteras ce décret-là en son temps, miyamim yomima, selon son temps imparti. C'est un débat. Est-ce que les téphilines dépendent du temps ou non. C'est vrai que les téphilines, on ne les met pas la nuit, par exemple. Mais c'est un débat, peut-être on pourrait les mettre la nuit. Bon, c'est un débat qui dépend de l'explication du dernier verset. Fort de ces versets que nous venons de voir, maintenant on va voir comment Maïmonide, Rambam, dans le Mishneh Torah, va rapporter les halakhot du Seder de Pessah. Je vous passe le texte. Bien. Nous allons voir de grandes choses, des choses extraordinaires. Donc, Rambam, Maïmonide, ça va, vous avez le texte? Maïmonide a rapporté les lois précises des 613 commandements de la Torah. Dans une œuvre unique, qui s'appelle le Mishneh Torah. Mishneh Torah. Et ces 613 commandements, il les a organisés par sujet. Donc là, nous sommes dans les halakhot, chametz ou matzah, les halakhot, les lois relatives au chametz et à la matzah, 7e chapitre. Voilà, c'est là, perek cheville. Halakha alef, première halakha. Mitzvat asé shel Torah, le saper benissim beniflaot, shenasu lavotenu bemitzrayim belail chamisha asa benisan, shenemar zachor et ayom azé asher yotzatem imitzrayim. C'est un commandement positif de la Torah de raconter les miracles et les prodiges qui ont été faits à nos ancêtres en Égypte la nuit du 15 Nissan. Comme dit le verset, souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte. Alors, je vais poser une question qui va vous énerver. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Maïmonide ?
Non. C'est un peu à la fois redondant et contradictoire par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, puisqu'on disait que raconter la sortie d'Égypte, c'était pour appliquer la mitzvah, tu raconteras ton fils. Et là, il cite un autre verset.
Avantage.
T'as pas amené des bons.
On applaudit notre sympathique candidat. Très bien. Absolument. C'est pas bien. C'est pas bien. On vient de voir le verset qui dit clairement Vigatal binra bayom aoul et mort babourze asa hemlit betsetim mitzraim. On a vu les versets. On les a vus. Il y a un verset explicitement qui dit tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant c'est pour faire ces commandements que Dieu m'a sorti d'Égypte. Tu raconteras à ton fils la sortie d'Égypte quand il y a la matzah, le maror devant nous. Donc il y a un verset explicite. Qu'est-ce que Maïmonide va chercher un autre verset qui est, en vérité, le deuxième verset du paragraphe que nous venons de voir. C'est verset 3, en vérité. Que Moshe dit aux enfants d'Israël, « Souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte. » Alors, tous les commentateurs demandent « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Maïmonide ne prend pas le bon verset ?» C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, quelque part ?
C'est peut-être pour ça qu'il peut se raconter à lui-même.
Très bien. C'est bien. Ça, c'est-à-dire que si on restait dans le verset strict « Tu raconteras à ton fils », c'est limitatif. Dire que ça va au verset qui introduit tout le paragraphe « Souviens-toi de ce jour-ci », ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Très bien. Très bien. Ok. Parfait. Mais il va dire encore autre chose. Regardez. Comme dit le verset, « Zachor et ayom azé asher tzatem imitzraïm, kemo shenemar zachor et yom ha-shabbat. » Comme ailleurs on voit, « Souviens-toi du jour du Shabbat. » Qu'est-ce que veut dire Maïmonide ici ? C'est que quand la Torah nous dit « Souviens-toi de ce jour-ci », c'est comme « Souviens-toi du jour du Shabbat ». Qu'est-ce qu'on apprend de « Souviens-toi du jour du Shabbat » ? C'est la mitzvah de Kiddush. Quand on fait le Kiddush, le Shabbat, on accomplit une mitzvah. Ce n'est pas simplement que c'est une coutume de faire le Kiddush. Ouais, non. Quand on fait le Kiddush, on accomplit la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, le Kadosh. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc qu'est-ce que nous dit Maïmonide ? Que quand la Torah nous dit « Souviens-toi de ce jour-ci », ce n'est pas un souvenir éthéré. Ouais, souviens-toi, Barbara, nous sommes sortis d'Égypte. Non, c'est pas ça. C'est souviens-toi, c'est quelque chose, quand la Torah nous enjoint de nous souvenir, c'est toujours par quelque chose de précis, par un rituel précis et concret. La Torah nous dit souviens-toi, c'est pas abstrait, c'est quelque chose de concret. Comme le jour du Shabbat, on doit se souvenir du jour du Shabbat. C'est le kiddush. C'est structuré. Tu prends une coupe du vin, tu dis quelques versets, tu dis une bénédiction. C'est structuré. C'est concret. Donc, il y a quelque chose de concret. Continuons. Ou minayin. Et là, c'est extraordinaire. Minayin shebelail ramisha. Ça, nous savons-nous que c'est la nuit du 15. Et c'est là qu'il apporte le verset. Talmud Lomar vigata le bincha. Tu raconteras à ton fils. Donc, Rambam Maïmonide nous dit que tu raconteras à ton fils et la modalité pratique de l'injonction plus générale qui s'appelle « Souviens-toi du jour où tu es sorti d'Égypte ». Nous allons voir dans la suite qu'il y a d'autres incidences très très importantes de la démarche de Maïmonide. Maïmonide est des grands maîtres de la tradition, le seul qui analyse les choses comme ça. Par exemple, le Maharal de Prague a écrit son livre sur Pessah, Nouveau Hachem. Il a 5 pages pour casser la démarche de Maïmonide. Mais Ça paraît bizarre quand on dit comme ça. C'est un tel dit comme ça, un tel dit comme ça. Ça paraît bizarre, je ne comprends pas. C'est la tradition de Dieu qu'on veut savoir. On s'en fout, M. Maïmonide ou M. Maharal. Ça montre quand même que dans notre tradition, ceux qui approfondissent, les maîtres talmudistes, ont leur mot à dire. Il y a une dimension d'innovation. C'est une tradition divine participative. Non, ça veut dire que c'est très important. C'est que les maîtres qui sont dans le sujet, ils peuvent apporter quelque chose. Ils peuvent innover des choses. C'est une démarche hardie, ce que dit Manuel. De rapporter le verset plus général. Et Vigata le Binra, ce qui a priori, c'est ça la mitzvah. Non, c'est la modalité pratique dont, en réalité, l'injonction est la généralité qu'on a vue avant. Continuons. Talmud Lomar, le verset dit, « Tu raconteras à ton fils ce jour-ci. » Bavourzé, c'est pour cela. C'est quoi Bavourzé? Bécha, Sheesh Matsa, Omaror, Munachim, le Fanecha. C'est au moment où il y a de la matzah et du maror posé devant toi. Et Rambam maintenant dit exactement ce que tu viens de dire, Jessica. Va falpi shen loben. Puisqu'en vérité, l'injonction est plus générale, c'est même s'il n'a pas de fils. Le fils, c'est la manière de concrétiser, mais ce n'est pas limitatif. Va filou rachamim gedolim, chayavim. Les sapers, Betsal Mitzrayim, et même les plus grands sages ont l'obligation de raconter la sortie d'Égypte. Vérol amarir bedvarim sheiru veshayu areze meshubar. Toute personne qui s'étend et donne tous les détails de la sortie d'Égypte, raconte dans les détails la sortie d'Égypte, il est complimenté. L'alaha bet. Mitzvah Léodia Labanim. C'est une mitzvah de raconter aux enfants. Donc maintenant, on est dans la concrétisation. Comment ça va se passer? Souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sorti d'Égypte. Maintenant, comment ça va se concrétiser? Eh bien, la mitzvah est de raconter aux enfants. Va filou lo shalou, même si les enfants n'ont pas posé de questions. Comme dit le verset, Vigata Lubinra. C'est pas écrit, ton fils pose la question. Tu racontes à ton fils. Maintenant, pourquoi parler du fils, puisque ce n'est pas obligatoire? La mitzvah, c'est même si on n'a pas de fils. Alors pourquoi parler du fils? Pourquoi la Torah parle du fils? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ben, raconter, c'est transmettre. Enfin,
oui, mais pourquoi au fils?
Oui, mais la fille aussi, elle transmettra encore.
Non, la fille, oulala, elle revient, celle-là.
Mais... Non, mais parce qu'on dirait la fille, elle transmettra encore. La
mitzvah est plus générale. La mitzvah est de se souvenir de ce jour où on est sorti d'Égypte. Et la Torah nous dit... Tu racontes. Donc, je reprends la logique de Maïmonide. La mitzvah est de se souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, il faut parler concrètement de la sortie d'Égypte quand il y a les matzot, le maror. Le fils est subsidiaire, puisque c'est se souvenir de la sortie d'Égypte. Néanmoins, il faut parler à son fils. Pourquoi?
Parce qu'il ne l'a pas vécu aussi.
Oui, mais le père aussi,
il
ne l'a pas vécu.
Le père, mais lui, il a pas de grand-père.
C'est un début. C'est un renouveau, quoi. D'accord. Alors, regardons. D'accord, regardons. Tu racontes à ton fils. Le fi d'Ato Shelben aviv Melamdo. Selon la jugeote du fils, son père lui enseigne. En vérité, c'est ça l'innovation. Quand tu dis, tu racontes à ton fils, ce que vous dites, c'est juste, il y a la dimension de transmission. Mais j'aimerais revenir en amont, si vous voulez, déconstruire un peu tout ça, pour essayer de voir la base, le fondement de toute cette histoire. Pourquoi la Torah dit, tu racontes à ton fils ? Pour nous dire que tu dois t'adresser à lui, c'est ça le principe. Tu dois t'adresser à lui, comme il est. Le fidato shel ben aviv melamdo. Selon l'intelligence du fils, son père lui enseigne. Ketsad, par exemple. Imaya katan otipesh. Si son fils est petit ou idiot, omerlo, il lui dit, Beni, tu vois mon fils, kulanu aynu avadim. Kemo Shifrazo, ou Kemo Evetze Bemitzraim. Tu vois, mon petit garçon, on était tous des esclaves, tu vois, comme la femme de ménage, tu vois, la bonne. Oui, tu vois, la femme de ménage, eh bien, on était tous comme femme de ménage. Tu vois, celle qui passe la serpillière là, à l'école, oui, eh bien, on était tous comme ça. Non, si, si. Eh bien, nous, on était tous comme ça, et Hachem nous a sortis d'Égypte. Alors, là, me semble-t-il qu'il y a quelque chose à mettre en relief. Rambam nous dit, si ton fils est petit ou idiot, tu lui parles selon ce qu'il est. Comment il peut parler de mon fils qu'il est bête ? Mon fils, il n'est pas bête. Si mon fils, il est petit, pour d'arriver, ça arrive, un fils qui est petit. Si ton fils est petit ou idiot, qui pêche, ça veut dire idiot. J'ai pas de fils idiot, moi. Pourquoi il dit il est idiot ? Idiot. Pourquoi il dit du lachon hara sur mon fils ?
C'est-à-dire qu'aucun père ne dira mon fils est idiot.
Non, enfin bon, il y en a qui est en dégolement, hein, excusez-moi l'expression, Dieu ne plaise. Ça arrive, je veux dire, mais ça arrive d'être trisomique, excusez-moi l'expression, hein, je veux pas faire de scandale, ça arrive, mais en général, à part des cas qui malheureusement arrivent, ils commencent, disent, moi j'aurais dit le contraire, tu dis à ton fils, etc., la sortie d'Égypte. Si par hasard, Dieu ne plaise, il y a un problème psychomoteur, bon, tu le fais aussi la mitzvah. Non, il commence comme ça. Si ton fils est petit ou imbécile. C'est pas imbécile, ça n'existe pas, c'est rare. C'est rare, on dirait que c'est presque le... C'est comme ça qu'il commence à faire la mitzvah. Si ton fils est petit...
Mais ça fait pas référence justement dans la Haggadah, quand on parle des quatre types d'enfants et celui qui ne pose pas des questions, le tam. Enfin,
justement, on commence par le racham.
Oui, on commence par. Mais justement, c'est pour dire qu'il y a différents types. Enfin, il n'y a pas que des racham, que des rachamim.
Oui, alors commence par d'abord, voilà. Commence par le racham. Et si à Dieu ne plaise, Kaitana, il a vraiment le cuit qui rase des pâquerettes, bon, il faut aussi le faire participer. Et il fait le contraire, il commence par l'imbécile.
On a même le symptôme, c'est ce idiot par idiot pourrait comprendre celui qui ne pose pas tellement de questions. Ça pourrait être un
indicateur
sans le...
Peut-être des gens, je sais pas, moi j'ai déjà invité des gens, c'est vrai, des gens très intelligents, ils restent là, ils ne posent pas de questions. Non, je sais pas.
On parle d'enfants, ça
peut être
des enfants.
Et pourquoi ils commencent tout de suite, tout de suite par l'imbécile, c'est gênant.
Par le petit, pas par l'imbécile.
Oui, par le petit.
C'est au petit parce que c'est du même acabit, celui qui est imbécile, il restait petit. Logique de commencer si tu as un enfant petit, tu l'expliques comme un
d'accord.
Petit.
Bah, d'accord. Alors s'il est petit, tu t'adresses au petit. Et s'il est intelligent, voilà. S'il est bête, bon.
Parce que c'est l'idée, c'est le paradoxe. C'est même trouve l'idée que même un idiot comprendrait, c'est-à-dire comme on dit en français, même un idiot comprend ça, c'est la sortie de l'esclavage, c'est une idée tellement puissante, c'est, voilà l'idée centrale du CEDER, c'est l'idée, comme on dit en français, tu connais l'expression, même un idiot comprend ça.
Que ça doit concerner tout le monde.
Voilà, c'est
alors regardez, moi je oui. Oui.
Il aura à développer plus son explication en fonction de l'intelligence de son interlocuteur.
D'accord.
Mais en pratique, ouais. Il y a aussi le fait qu'un enfant en bas âge, il se désintéresse vachement vite. Ou si on a l'impression que quelque chose est trop compliqué, ben on ne s'y intéresse pas forcément et on ne va pas écouter l'explication future où ça serait plus simple. Et donc le but, vu que c'est d'intégrer vraiment tout le monde.
Et d'ailleurs, ceux qui ont l'attention. Qui ont du mal à soutenir leur attention. D'abord, ceux qui ont du mal à soutenir leur attention.
Est-ce que ça ne voudrait pas dire que personne doit être exclu de cette compréhension ?
Alors, regardez. Moi, je propose comme lecture que j'espère être rigoureuse dans le texte. Rambam nous dit il faut s'adresser à l'enfant. Mais à l'enfant comme il est. C'est-à-dire, moi, disons que je suis un adulte, que je prépare le seder, je sais qu'il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, j'ai préparé des explications, puisque finalement, c'est des choses importantes à dire, les miracles, les prodiges et tout ça. Mais attention, il ne faut pas que tu balances ton savoir comme ça. La Torah nous dit « Vigata le Bincha ». On a vu que « Bincha » n'est pas obligatoire. Ça veut dire « Bincha », si tu as un fils. Mais si tu n'as pas de fils, tu as aussi la mitzvah. Alors pourquoi la Torah dit « Vigata le Bincha » ? Il me semble que ici, c'est ce que Maïmonide a dit avant. C'est nous, la mitzvah du Seder, c'est revivre la sortie d'Égypte. La mitzvah du Seder, c'est revivre la sortie. Zachor et Tayom Azé, Shatzatami Mitzrayim. Il y a une sortie de l'esclavage. Comment ? C'est que tu ne dois pas être esclave de ce que tu as à dire. Tu dois t'adresser à ton enfant comme il est. Lucien, tu viens de dire, il faut pas, personne ne doit être exclu. Ça veut dire, tu t'adresses à l'enfant comme il est. Tu dois, à la limite, oublier ce que tu as préparé pour t'adresser à cet enfant. C'est ça ce que Maïmonide dit, s'il est idiot. Ça veut dire, mon fils n'est pas idiot, il est super intelligent. C'est ça son problème d'ailleurs. Non, mais je blague. Mais il est super intelligent. C'est nous, tous les parents juifs, ils disent, c'est intelligent, mais laisse tomber. Mais alors qu'est-ce qu'il dit ? Il est idiot. Ça veut dire, oui, c'est que tu dois t'adresser à lui. Tu dois trouver des paroles qui s'adressent à lui. C'est déjà revivre une sortie d'Égypte. Le Seder, c'est une parole qui doit être libre. Pas que tu as ton truc à dire. Nous, on a le texte de la Haggadah. Ici, Rambam nous dit, en se basant sur les enseignements des Chachamim, l'Agada, c'est un canevas. Un canevas. C'est-à-dire, c'est une base. On ne peut pas partir en live comme ça, improviser n'importe quoi. Il faut savoir de quoi il faut parler. Mais à la limite, tu dirais ta Agada, tu n'as pas fait la mitzvah. Vous regardez, là, c'est... À la limite, tu dirais ta Agada, tu la lis, tu n'as pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est de trouver les mots qui vont faire que cette personne-là, elle puisse être concernée. Quitte à ce que moi j'avais à dire, l'oublier, pour m'adresser à lui. C'est ça. C'est pour ça que c'est Vigata de Vintra. C'est ce que les sages disent, les kabbalistes disent, qu'en Égypte, la parole était en exil. L'Égypte, ils disent « Adibour Aya Begalut ». Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? C'est l'exil de la parole. Il n'y avait pas des personnes qui s'adressent à une autre personne.
Comment ça se dit en hébreu?
À Galut, à Dibour Aya Begalut. À Dibour Aya Begalut. L'exil, ici, Rambam, dans sa manière extrêmement ramassée de nous dire, presque prophétique, c'est un halachiste, c'est des lois, mais la manière dont il a de nous dire, en termes extrêmement précis, concis, la loi, c'est pas seulement la loi qui nous dit, c'est même le contenu de la loi qui est en train de nous dire. Et c'est ça ce qu'il a dit. Souviens-toi de ce jour où on est sorti d'Égypte. Comment? Eh bien, quand tu es au Seder, tu as ton enfant, eh bien, bon, tu as une génération de plus, tu es son père, donc tu as une génération de plus, tu as plein de choses à dire. Eh bien, à la limite, oublie la manière de le dire, pour trouver les mots qui vont faire que ton enfant, il soit concerné. Et c'est pour ça, je dirais, que Maïmonide dit s'il est idiot. Parce que dans nos fantasmes, nos gosses, ils sont très intelligents. Mais quand tu t'adresses à lui, tu te rends compte qu'il est con. Quand on dit, ouais, moi, j'arrive pas à parler avec mes gosses. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à parler parce que tu es dans ton monde. Est-ce que tu t'oublies pour pouvoir parler à lui? C'est ça, là c'est se souvenir à sortir des gens. Il faut s'oublier. Il faut qu'il y ait une parole neuve, à la limite. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va se dire le soir du Seder. Alors c'est pour ça, les sages ont rédigé la Haggada pour qu'on sache un peu de quoi on va parler. Il y a une structure. Et puis aussi, on n'est pas tout le temps... On n'est pas tout le temps motivé pour reconstruire le monde, quoi, si on peut s'exprimer comme ça. Donc il y a la Haggadah. Mais à la limite, on dirait la Haggadah stricto sensu, on n'a pas fait la mitzvah. Parce que la Haggadah, bon, c'est Haggadah, quoi. C'est pas ça le fond. Le fond, c'est pouvoir faire qu'il y ait une parole qui se dise. Et ça, Maïmonide va développer dans la suite. Continuons. Vimaya beno aben gadol vechacham, si l'enfant est adulte et chacham, savant, modiyo ma sheira lanu bemitzraim, venissim shelasu lanu alede Moshe Rabbeinu, il lui raconte ce qui s'est passé en Égypte, les miracles qui ont été faits par le biais de Moïse, notre père, notre maître, tout selon le discernement du fils. Continuons la lacha gimel. Vetsarir la sot shinui balayla azé. Dans la lacha bet, il dit il faut raconter, mais pas raconter de manière mécanique, de manière spontanée, je dirais. Trouver un interlocuteur. S'adresser à cette personne qui est là, malgré les difficultés. Ce n'est pas avoir son truc à dire, mais pouvoir faire que la personne, on s'adresse vraiment à cette personne. La lacha gimel, malgré tout, on doit faire en sorte que la personne, pas seulement on lui raconte, mais qu'elle se sente concernée. Comment faire qu'elle se sente concernée? En faisant des choses qui l'étonnent. Sarir la sod shinui balaylaz. Le soir du seder, il faut faire des choses étonnantes qui sortent de l'ordinaire. Kedei shiru abanim vishalu, pour que les enfants voient et posent la question veyomru ma nishtana alaylaz. Mais pas qu'ils disent seulement la chanson ma nishtana. Il faut faire des choses qui disent mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est différent d'habitude? Mais pourquoi ? Pourquoi tu lui expliques ? Il se passe quelque chose d'étonnant. C'est la capacité de poser des questions. Parce que la question fait qu'on est présent dans ce qui se passe. Tant qu'il n'y a pas de question, on est passif. On doit faire en sorte pour que la parole puisse vraiment s'adresser à la personne et puisque la parole puisse être, on pourrait dire, pas pontifiante, mais vivante, il faut faire des stratagèmes pour que des questions se posent. C'est pour ça, d'ailleurs, dans l'étude talmudique, toujours, ça commence toujours avec des questions. Parce que tant qu'il n'y a pas de questions, si vous voulez, c'est le savoir. Mais le savoir, c'est un exil, il n'y a pas de parole. Et le maître, il arrive et il dit ce qu'il a à dire. Et alors ? C'est mort. C'est terrible. C'est mort. C'est terrible. Ça, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'était la terre du savoir. L'Égypte, c'était la terre de technologique de l'époque. C'était la grande technologie de l'époque. Il y avait énormément de savoir. Mais ça passait au-dessus de la tête, ça ne nous concernait pas. En quoi ça nous concerne ? Ça, c'est la sortie d'Égypte. J'ai vu une explication d'un commentaire qui s'appelle Rabbi Ephraim Lunshitz, dans un livre qui s'appelle Olelot Ephraim. Il dit, c'est quoi la traversée de la mer Rouge ? La traversée de la mer Rouge, qui est la suite de la sortie d'Égypte. C'est quoi la traversée de la mer Rouge ? Qu'est-ce que ça signifie que les enfants d'Israël, ils ont marché à l'intérieur de la mer à pied sec ? Explique Rav Ephraim Lunshitz, c'est un élève du Maharal de Prague, il explique, ils n'étaient pas noyés par l'océan de la connaissance. On est noyés par les informations, on est noyés par la connaissance. Mais est-ce que nous, on a un chemin, une démarche dans cette connaissance ? Est-ce qu'on existe, on est là ou on est noyé ? C'est ça la traversée de la mer.
On n'est pas noyé, on n'est pas touché du tout, parce que si vous marchez sur ce que c'est sec, c'est qu'ils n'avaient aucune information alors, dans ce cas-là. Parce qu'ils auraient pu marcher avec les pieds mouillés, être dans l'eau, sans être noyés. C'est à ce moment-là, on espère vraiment qu'il y avait un vide.
C'est pas vraiment.
C'est ça qu'ils étaient dedans, en fait. Ils n'étaient pas mouillés.
Voilà. Ils sont dans l'océan. Ils sont dans l'océan. Mais ils marchent, ils ont un chemin. C'est ce qu'il dit, ils ont un chemin à l'intérieur de la connaissance. Le but n'est pas de savoir, mais d'avoir un positionnement à l'intérieur de cette connaissance. Où je me trouve par rapport à ça ? Ça, c'est la sortie d'Égypte. Et le soir du Seder, c'est ça qui est en jeu. Et maintenant, on pourra réaliser pourquoi le verset dit... Ce jour-là, parce que nous sommes dans la nuit, c'est une parabole de notre existence dans ce monde-ci, c'est un monde un peu obscur, on est ici sur Terre, on se pose des questions, beaucoup, qu'est-ce qu'on fait là, machin, je ne sais pas si vous posez ces questions, mais bon, les grandes questions, mais des fois on se pose quand même ces questions, même si c'est des grandes questions, on est dans l'obscurité, mais cette nuit, au cœur de la nuit, il y a un éclairement. Un éclairement, c'est que Dieu nous a sortis de l'esclavage. Comment on va exprimer concrètement cette sortie de l'esclavage en étant prêt à dire une parole qui peut nous concerner. Qui concerne, on s'adresse à quelqu'un. Et deuxième étape, la halakha guimel, pas seulement qui concerne la personne, mais faire que la personne soit active aussi dans cette parole, par les questions. La halakha guimel, v'tzarir la sol shinui balayla azé, il faut faire des choses qui sortent de l'habitude, kedesh shiru abanim v'shalou, pour que les enfants posent la question et disent, mais qu'est-ce qu'il y a cette nuit, pourquoi on fait comme ça ? Jusqu'à ce que leur père va répondre et dit, pourquoi on fait ça ? Parce qu'il s'est passé ça. Ketsad, par exemple, Ketsad Meshane, exemple de choses qui sortent de l'ordinaire, Mechalek Laem Klayot Vegozim, il distribue des Klayot et Gozim, des noix. Bon, à l'époque, il n'y avait pas des... comment ? Il n'y avait pas des marshmallows, il y avait... Comment ça s'appelle les... M&M's. Voilà, M&M's. Ouais. Il n'y avait pas les M&M's.
Les chocolats.
Ouais. Or, en général, c'est le gosse, il dit, papa, je veux des M&M's. Ouais. Et elle dit non après le dessert. Mais là, avant le repas, distribuer, ça n'existe pas. C'est le gosse, il crie pour en avoir. Là, tu lui donnes. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est le soir du céder. Voilà. Et les clayotes, c'est des grains de blé soufflés. C'est clignote, très bien. Alors, non, c'est pas clignote du tout. C'est du, si vous voulez... C'est l'équivalent à l'époque du pop-corn. Maintenant, le pop-corn, il n'y avait pas de pop-corn à l'époque de Maïmonide. Vous êtes d'accord? Pourquoi il n'y avait pas de pop-corn, monsieur qui rigole?
Ça fait rire de parler de Maïmonide et de pop-corn. On associe les deux.
Hein? Et pourquoi il n'y avait pas de pop-corn à l'époque de Maïmonide?
C'est pas bien.
Comment? Mais il n'y avait pas de cinéma.
Il n'y avait pas de cinéma.
Ça, c'est bien. Mais je crois parce que le maïs est venu quand même avec la découverte de l'Amérique. Hein? C'est pour ça que c'est un peu incongru de parler de pop-corn avec Maïmonide. Alors, l'équivalent à l'époque, c'est du grain de blé grillé, qui n'est pas chametz. C'est seulement s'il est en contact avec de l'eau, c'est chametz. Mais tu le grilles, ouais, il n'est pas chametz. Continuons. Autre chose, okrim ashulchan menifneim kodem sheyoklu, et on enlève la table devant eux avant de manger. Alors effectivement, quand vous regardez le seder, c'est écrit à tel moment on enlève le plat du seder. Mais c'est pas tellement impressionnant. Alors moi personnellement, je fais quelque chose pour maintenant mes enfants ils sont blasés. Il faut que je trouve autre chose. C'est, on met à table, on met des assiettes. On enlève les assiettes. Alors c'est radical. Essayez, vous enlevez les assiettes. Mais pourquoi t'as des assiettes? Ah, maintenant on va pouvoir parler de la sortie d'Égypte. Alors c'est radical, vous enlevez les assiettes parce que le ventre crie à ce moment-là. On n'a pas mangé. Ça c'est radical. Et on prend la matzah, on la passe de l'un à l'autre. Bon, c'est l'histoire de la ficomane. On cache la matzah pour mettre de l'ambiance, quoi, qu'on soit réveillé, qu'on ait envie de continuer. En lo ben ishto shoelato. S'il n'a pas de fils, c'est sa femme qui lui pose des questions. Elo Isha, il n'a pas de femme. Shoalim ze etze manishtana alaylaze. Il n'a pas de femme. Alors, entre copains, il se pose la question, pourquoi cette nuit est différente des autres nuits? Va filu ayukulam chachamim. Même si c'est des grands sages, ils ont écrit 5 livres sur le Seder de Pessah. Il doit... Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi? Et machin.
C'est souviens-toi, c'est pas souviens-toi, toi, le mec. Alors pourquoi? C'est sa femme qui lui pose des questions, et pas lui qui pose des questions à sa femme.
C'est pourquoi il y a une hiérarchie. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas directement que chacun se pose des questions entre eux? Pourquoi d'abord l'enfant, s'il n'y a pas d'enfant, la femme, s'il n'y a pas la femme, les veines? C'est quel le sens de ce...
Oui, alors vous avez dit tout à l'heure... Il y a la dimension fondamentale de la transmission. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a aussi, si vous voulez, je vais reprendre cette question par un autre biais. Tout de suite. Il n'a pas de fils. Sa femme lui pose la question. Il n'a pas de femme. Entre copains, il se pose la question. Même s'ils sont tous des chachamim, ils doivent trouver des questions pour eux-mêmes s'impliquer. Ça veut dire, à la limite, ils doivent oublier toute leur érudition énorme, oublier leur érudition pour trouver une pertinence dans leur existence de ce qu'on est en train de vivre. En quoi ça me concerne ? En quoi ça me concerne ? Parce que tu peux être érudit et finalement ça ne te concerne pas. En quoi ça me concerne la sortie d'Égypte ? Aya le Vado, il est seul. Shoel le Atzmo, Manishtana Lailaze. Il est seul. Il se pose la question à lui-même. C'est quoi cette nuit-là ? Pourquoi c'est différent des autres ? Et vous avez posé la question tout à l'heure. Il y a le fils, il y a la femme, il y a l'ami. Et la grande absente, c'est la fille. Pourquoi on ne parle pas de la fille ?
Ça se rattache à ce qu'on a étudié, à ce qu'on a regardé au début du cours, au premier Bechor.
Je ne sais pas, j'ai pas lu les corrigés, moi. Je ne sais pas. Moi.
Non.
Bechor, c'est premier des garçons.
Mais pourquoi ?
Justement, est-ce que ce n'est pas lié à ça ?
Pourquoi y a-t-il une discrimination ?
Non, dans la Torah, mes amis, non, dans la Torah, regarde, dans la Torah, mais je pense, regarde, il n'y a pas de discrimination, ce n'est pas vraiment discrimination. Je dirais les choses comme ça, si je peux me permettre. Le père, ça va choquer, mais j'aime bien, hein. J'aime bien. Le père, ici, ne doit pas s'adresser à sa fille. La parole est une dimension d'une relation puissante. Ici, la parole dont on parle, c'est l'émergence, le soir du Seder, d'une parole puissante. D'ailleurs, ils vont sortir d'Égypte et vont recevoir au Sinaï les 10 paroles, Aseret Adiberot. Ça s'appelle Dibour. Une relation, ça s'appelle Dibour. Une relation, ça s'appelle un Dibour. Cette parole ici, cette parole est une parole au sens fort. C'est une relation, c'est pas seulement une parole. Ou alors, non, une parole, c'est une relation. Et même, je dirais, il y a presque une relation. Dans toute relation, il y a une intimité qui se passe. De la même manière, quand on étudie la Torah, on étudie toujours à deux. C'est les chaverim, la chavruta, c'est par la discussion, eh bien, on devient ami. On a une proximité qui se passe. Cette proximité, retrouvée le soir du Seder, est tout à fait adéquate entre un mari et sa femme. Tout à fait adéquate. Il n'a pas de fils, c'est sa femme. Sa femme lui pose la question. Parce que dans la Torah, ça n'existe pas un homme seul, une femme seule. Ça peut exister, évidemment, dans l'existence. Mais fondamentalement, la Torah est vécue comme Dieu a créé l'homme, il a créé un homme avec une femme. Zahar ou Nekeva, Baram, il a créé l'homme. Il n'a pas créé l'homme comme ça, il a créé homme et femme. Un homme, c'est pas on dit un homme, tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas appelé Adam. Parce que un homme sans une femme et une femme, excusez-moi l'expression, ça peut arriver que des gens ne soient pas mariés. Ça peut arriver, évidemment. Mais l'existence comme Dieu le conçoit, l'existence comme Dieu l'a conçue, c'est homme et femme. Et où est la base de homme et femme ? C'est la parole. C'est le dibour. Alors, le père et le fils, il y a la dimension de transmission forte par cette parole. En vérité, instinctivement, c'est très difficile une relation entre un père et sa fils, et son fils. Il y a, entre son père et entre un père et le fils, il y a, je ne sais pas, une compétition, hein, je ne sais pas quoi, quel délire mental il y a, mais c'est comme ça, c'est darwinien. Je veux dire, pour le fils, le père, c'est souvent, excusez-moi l'expression, un vieux con. Je veux dire, ouais, il est dans ses vieux trucs, le fils, lui, il est aujourd'hui. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a créé les choses de manière bizarre qu'entre un père et un fils, il y a une génération. Que structurellement, il y a une incompréhension. Donc, une parole, c'est un travail, c'est un labeur, qu'il y ait une parole entre le père et le fils, c'est une gageure qui doit se passer le soir du Seder. Mais par contre, que le père essaie d'avoir une relation forte avec sa fille, c'est foutre sa fille en l'air. À la limite, si je peux me permettre, le père doit faire en sorte qu'il ne doit pas être l'amant de sa fille. Que la fille, justement, presque, il laisse sa fille presque en frustration pour qu'elle aille chercher ailleurs. Ouais. Il ne doit pas créer, il doit, comme les Chachamim disent, un père, certes, doit donner une éducation de Torah à sa fille, mais ne doit pas être le maître de sa fille. Et d'ailleurs, je n'en aurai pour preuve, puisque ici, il y a des gens qui ont quelques rudiments de psychanalyse beaucoup plus que moi, qu'il y a eu un grand scandale au début de la psychanalyse, que Anna Freud a été psychanalysée, paraît-il, par son cher papa, et ensuite, elle est devenue lesbienne. C'est quelque chose à réfléchir. C'est quelque chose à réfléchir. Je ne sais pas si on peut dire ça 1 plus 1 égale 2. Les choses sont sûrement plus compliquées que ce que je le dis. Mais pour un ignare comme moi, ça m'a toujours surpris cette histoire. C'est très compliqué la relation entre un père et son fils. Mais on parle très peu de la relation entre le père et sa fille. Et il me semble qu'ici, il y a une clé. Dans ce passage où, spontanément, vous avez été révolté, et la fille, ouais, c'est la fée Carabosse. Et on ne l'a pas invitée. Ouais, elle ne l'a pas invitée. Mais elle est là quand même. Et on ne s'adresse pas à elle. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Le maintenir dans l'ignorance.
Mais c'est pas l'ignorance. La maintenir dans la frustration. La maintenir dans la frustration.
Que il y a une fille, elle est là, mais elle ne montre pas. Elle ne reste pas dans l'ignorance, puisque s'il y a une fille qui existe, elle est présente à la table avec
son père. Pourquoi est-ce qu'on ressent sur le père, la mère, elle a le même devoir de Agada?
Non, c'est le papa qui enseigne à Agada.
Non, mais d'écouter la
oui, d'être la présent,
de
oui.
Donc, on a la femme, exactement, une femme seule, pour une raison ou pour une autre, toujours de
personne. Elle a l'obligation.
Elle a l'obligation.
L'obligation.
Donc, pourquoi est-ce qu'on sente sur le père à son fils et pas sur la mère sa fille?
Oui, mais c'est le père qui transmet la parole.
Mais pourquoi?
Non, je ne sais pas moi pourquoi, il faut demander au bon Dieu, je veux dire, je ne sais pas moi pourquoi, j'en sais rien moi.
Il y a marqué « souviens-toi », il n'y a pas marqué.
C'est vrai.
Et est-ce qu'on est sûr que l'enfant c'est vraiment que le fils? Est-ce que c'est toujours, enfin, de temps en temps, quand le Réchinam Dam Levanekra,
c'est
les enfants,
c'est les fils.
Donc, jamais le mot.
Non, je vais vous dire, je ne vais pas faire du politiquement correct. Je vous dis franchement, je ne cherche pas à ce que vous soyez d'accord avec ce que je rapporte. Hein. Mais on m'a demandé de faire un cours de Torah, je fais un cours de Torah. Je veux dire, je peux inventer autre chose, une religion, quelque chose de proche du judaïsme. Mais je ne dis même pas que je suis d'accord avec ce que je dis. Je ne dis même pas que je suis d'accord, mais j'essaie de transmettre fidèlement notre tradition. Maintenant, tout expliquer, je ne sais pas moi pourquoi Dieu il a fait qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des grands débats là-dessus. Je sais qu'il y a, aux États-Unis, il y a la petite Judith Butler, c'est énormément investi là-dedans. C'est très, très juif là-dessus de s'investir. Oui, mais finalement, la différence homme-femme est une dimension culturelle qui peut se vivre autrement. Un homme peut se vivre avec une féminité, une femme peut se vivre avec une masculinité. Je ne sais pas. Personnellement, ça ne me concerne pas. On m'a demandé de faire un cours de Torah. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, dans la Torah, l'exacerbation de la sexualisation de l'homme comme homme et de la femme comme femme est exacerbée. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut le constater. Comme on dit en yiddish, on dit quand on étudie, on dit pas forvus, on dit vous. On dit qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. Alors pourquoi, je ne sais pas. J'essaie de rendre compte. On dit azoïchtet. Donc pourquoi en yiddish, c'est mieux d'étudier la Torah en yiddish par contre. C'est mieux, c'est plus... c'est une langue qui a été façonnée par l'étude talmudique. Et donc il y a des mots, des expressions qui sont vraiment bien adéquates. On dit azoïchtet, c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi azoï. Tout de suite. Mais j'aimerais malgré tout synthétiser clairement, que les choses soient claires. Je pense que c'est ça ce que le texte dit. Je pense que c'est ça ce que le texte dit. Que, effectivement, il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Que la fille est présente, comme vous le dites, Rana, la fille est présente, évidemment. Mais ce n'est pas mis en exergue. Que le père, il n'a pas de fils, il s'adresse à sa fille. Pourquoi ? Binra, c'est fils. Il s'adresse à sa femme. Et ça, c'est légitime, par contre. Ça, c'est légitime, parce que un couple, c'est d'abord une parole. C'est d'abord une relation. Nous, ici, c'est fondamental. Dans la culture dans laquelle on est, entre un homme et une femme, c'est d'abord du sexe. Ouais. Dans nos traditions, non, c'est d'abord une parole. D'abord une parole. Maintenant, entre un homme et sa fille, eh bien, peut-être que si nos maîtres ici zappent, que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le cadre. D'ailleurs, les Chachamim déconseillent à ce que le père ait une relation d'étude de Torah avec sa fille. C'est sûr qu'il doit l'éduquer dans la Torah, évidemment. Mais, c'est pas le père ne doit pas être le maître de sa fille. Il ne doit pas l'être. Alors, il faut la laisser open. Le père ne sera pas le prince charmant de la fille. Il ne faut pas.
C'est quoi une question de pudeur ?
C'est la même chose. Et d'ailleurs. C'est la même chose que, évidemment, moi je fais des cours mixtes, mais disons, traditionnellement, c'est sûr qu'il y a une limite à l'enseignement d'un homme à une femme. C'est évident.
Alors, c'est évident. Qu'est-ce qui nous apprend enfin,
comment
bah oui, mais comment on apprend
qu'est-ce qui nous apprend à une des femmes, mais elle va plus comment
alors, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Qui va peut-être vous énerver, c'est vos maris. Longtemps, on n'est pas obligé de se marier tard, je veux dire.
Des cours comme ça, il n'y a jamais de cours de rabbinim à des filles où c'est un rapport de chavruta, jamais. Les seuls chavruta que tu as avec autre qu'une fille, c'est avec ton mari, normalement.
Et c'est comme ça que ça doit se passer.
Non,
si vous voulez, c'est pas... Alors, c'est vrai que... C'est vrai que il peut y avoir des institutions pour enseigner la Torah pour des jeunes filles. Ça, c'est sûr. Mais c'est malgré tout limité. Voilà. Bien. En tout cas, pour synthétiser, je synthétiserai là-dessus que la base... du soir du Seder, la base du soir du Seder, comme Rambam nous dit de manière quasi prophétique, c'est qu'une parole, s'exprime. Et c'est ça la sortie de l'esclavage. C'est ça la réactualisation de la sortie de l'esclavage. Et première relation qui est une relation qui n'est pas évidente, c'est la relation entre père et le fils, qui est une relation qui instinctivement se, comment dire en bon français, se délite. On dit comme ça ? C'est une relation qui fondamentalement est faite pour se déliter. Et c'est la relation qu'il faut construire par une parole. Et une parole, c'est une relation. Ce n'est pas une simple relation, c'est une relation construite par une parole. C'est ça qui doit se passer le soir du Seder. Et certes, nous avons le texte de la Haggadah, mais la Haggadah, c'est un canevas, la Haggadah, et c'est un départ, mais ce n'est pas l'aboutissement. C'est sur cette base créer donc une parole libre le soir du Seder. Voilà ce que je voulais voir avec vous.
Merci.
Donc, si j'ai bien compris, il ne faut pas que les filles...